vous intéresser à l'histoire.
Archive.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Archive, encore une fois une bande des surprises. Je tiens ce mois-ci particulièrement à remercier Gilles qui est venu passer pas mal de temps et qui donc nous a sélectionné ce mois-ci cette bande encore en état d'audibilité.
Oui, en bon état même, c'est une très bonne surprise, comme quoi le bon matériel se conserve, le matériel analogique, on ne connaissait pas encore...
L'obsolescence programmée à l'époque.
Voilà, ça n'existait pas. Et là, on vous emmène en Mongolie. En Mongolie, cette émission a été enregistrée en 1992, donc c'est pas d'aujourd'hui quand même. Et cette émission s'appelait Micro ouvert. Alors un titre, tout ce qu'il y a de plus lambda, hein, c'est Micro ouvert à tout le monde. Et là, une voyageuse extraordinaire qui s'appelle Anne et qui, peu de temps donc après la chute du mur de Berlin, je vous rappelle 89, et qui a causé certains changements donc dans les blocs, ce qu'on appelait les blocs de l'Est. Et là, elle nous emmène en Mongolie. Donc, pendant 3 mois, elle est partie avec sa copine Marie. Donc...
Ça fait quand même très loin à l'Est.
Oui. C'est vraiment l'Asie. Ouais. Et pendant 3 mois, avec son amie Marie, elles ont voyagé en Mongolie par tous les moyens disponibles. Et il faut remettre dans le contexte aussi, ce sont toujours, je crois, deux bergères tondeuses, donc qui officiaient dans le sud d'Aveyron et qui sont bien connus des paysans, des éleveurs locaux. Et donc, il y a 23 ans, elles ont pris l'Orient Express aussi. Elles ont fait ça, une partie en train, une partie en avion pour y aller, une partie en train pour revenir. Enfin, c'était un super voyage, quoi. Pas évident du tout à l'époque. Et la Mongolie qui commençait à s'ouvrir à l'Occident, avec tout ce que ça comporte, avec quelques petits restants de l'Union soviétique et ce mélange subtil et sympathique. Je vous laisse écouter cette ambiance à Oulan-Bator, déguster cette bonne bouteille.
Micro ouvert.
Tous les vendredis à 18h15, soyez notre invité. Téléphone 65 49 29 94.
Dans Micro ouvert, on vous emmène en Mongolie et on a un guide pour cela, Anne, que nous recevons et qui a passé 3 mois donc, dans ce pays. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous faire 2 doigts de géographie là ?
Ouais, bah, c'est pas compliqué. La Mongolie, c'est situé entre la Chine au sud et l'URSS au nord. C'est un grand pays puisque c'est 3 fois comme la France, mais au milieu de ces 2 pays-là, bah, c'est pas très grand en fait. Entre Chine et Russie, c'est un petit pays.
C'est une bande un peu de terrain, ça se situe en...
Ouais, c'est un losange assez étalé qui est à peu près, c'est 50e degré de latitude, donc c'est juste un tout petit peu plus nord que nous. Et c'est un climat, par contre, ce qui est spécial en Mongolie, c'est son climat, par exemple, un climat très très continental, il n'y a aucune frontière... aucune ouverture sur la mer. Et là, on le sent vraiment tout de suite quand on arrive. C'est très venté. Bon, et puis, on écoute les gens. Il fait moins 40 l'hiver. Donc, c'est spécial.
Ah oui, moins 40 l'hiver. Et l'été, c'est chaud ?
L'été, il fait... Bon, nous, on est arrivé en juillet. Il faisait 25 degrés à peu près. Mais 25 degrés très aéré. Donc, c'est un climat de montagne, de toute façon. Même à 1500 mètres d'altitude, on est... ou à 1000 mètres, on sent déjà en montagne, quoi.
Oui, ce sont des plateaux dans l'ensemble ?
pas ce qu'on peut appeler plateau comme les plateaux aveyronnais, quoi, plutôt des régions vallonnées. Ça ressemblerait, on pourrait dire que ça ressemblerait au sud de l'Aveyron. Hein, c'est la région de Saint-Cernin, c'est vallonné. Seulement, il n'y a pas un arbre.
Ah ouais.
C'est complètement nu. Du moins, la moitié sud du pays, disons. Au nord, il y a quand même des grandes forêts. Hein, des grandes forêts de mélèze, bouleaux, tout ça.
Mais en général, c'est la steppe, la fameuse...
C'est la steppe, ouais. Mmh. Ouais.
Qu'on peut voir dans un film qui est fabuleux, qui s'appelle Urga, et qui décrit complètement ce pays, puisque tout le film se passe là-bas. Mais on reviendra sur le film. Donc, en gros, tu nous as situé la Mongolie. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du régime politique, enfin, ou comment ce pays, comment se situe-t-il à l'heure actuelle?
Bah, il est en pleine mutation, comme tous les pays communistes et ex-communistes, quoi. C'est un pays qui est indépendant, bon, qui a fait sa révolution en 1921 et qui était tout à fait satellite de l'URSS, quoi. On s'en rend compte tout de suite quand on arrive. Et puis maintenant, bah, l'URSS a éclaté, donc la Mongolie, bah, c'est le parent pauvre, elle a été complètement lâchée. Et elle se retrouve depuis un an et demi complètement seule, avec très très peu de ressources. C'est pas un pays de misère, hein, pas du tout. Hein. Actuellement, quoi, c'est plutôt un pays où on vit bien. Bon, c'est un pays d'élevage, les gens très peu peuplés, donc tout va bien. On pourrait dire que tout va bien.
Les gens mangent à leur faim sans
ouais,
problème,
c'est ça,
du fait que c'est rural. Ouais.
Plus que ça, quoi. Il y a un confort de vie quand même, il y a une qualité de vie qu'on sent chez les éleveurs. Bon, il y a beaucoup d'éleveurs, on sent une qualité de vie. Mais au niveau économique, bon, bah, ça va, c'est déjà galère, quoi. On peut pratiquement plus circuler en Mongolie, quoi. Les vols aériens sont interrompus sans arrêt. Il n'y a pas de pétrole pour mettre dans les camions. Donc le peu de ressources, genre minerais ou autres, sont difficilement exploitables. Le peu de matériel agricole est difficilement utilisable aussi. Donc si ça continue, ouais, ça va être assez mauvais, je pense. Mais...
Alors, la question que beaucoup de gens doivent se poser, c'est comment on part en Mongolie et pourquoi, comment se fait-il ? Les gens qui te connaissent savent que tu voyages beaucoup, que tu aimes ça. Tu fais au moins un voyage tous les ans, si ce n'est tous les deux ans. Mmh. Et donc, pourquoi la Mongolie et comment ?
Bah, la Mongolie, parce que c'est un pays d'élevage, parce que... Enfin bon, là, c'est quand même assez personnel. Hein,
Il faut préciser que toi, ton boulot
Moi,
concerne l'élevage.
Moi, je suis tondeuse de brebis, donc tondeuse de brebis. Dès que je vois de la laine, ça me fait sourire, ça me réjouit. Donc j'ai envie d'aller en Mongolie parce qu'il y a des brebis, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, parce que... ça, c'est un petit peu... Ça pourrait ressembler à de la fierté, quoi. J'aime bien aller dans les pays où tout le monde ne va pas. Donc aussi, c'est pour ça que j'aime
bien
aller en
Mongolie. Hors des sentiers battus.
Voilà. Mmh. Et puis sinon, ouais, c'est ça, c'est spécialement un pays de nomades, pays d'élevage. J'avais envie de voir... Enfin bon, je suis partie avec une copine, on est partis à deux. Elle aussi est tondeuse de brebis, elle est bergère. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a eu envie d'aller en Mongolie chacune de notre côté. Et un jour, on s'est rencontrés. Tiens, où tu veux aller? Moi, je veux aller là. Et ben moi aussi, allons-y ensemble. Donc on est partis ensemble.
Deux filles, deux tondeuses en Mongolie. Donc c'est une liaison entre l'Aveyron et ce bout du monde. C'est la brebis, hein, la liaison, ouais, entre autres. Et donc tu avais sûrement lu des livres là-dessus aussi, peut-être un petit peu.
Oui, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu envie d'y aller, bon, moi, j'ai essayé de me documenter sur le pays, quoi, pour pas être trop perdu en arrivant. Bon. On est de toute façon, on est perdu quand on arrive dans un pays comme ça, enfin partout.
Mais avoir quelques pistes.
Avoir des idées.
Alors donc, vous essayez de prendre un visa, je suppose.
Alors on arrive à l'ambassade pour demander un visa, et à l'ambassade de Mongolie à Paris, là c'est à Boulogne. On ne donne pas de visa, on donne des visas aux gens qui font du tourisme organisé, on donne des visas aux gens qui vont travailler là-bas, et puis aux gens qui ont des relations parents ou autres en Mongolie. Donc, de toute façon, il est hors de question qu'on n'aille pas en Mongolie. Alors, on va trouver quelque chose à faire là-bas. On va aller faire de la tonte, puisque c'est notre job. Et c'est marrant, parce qu'à ce moment-là, oui, effectivement, on a commencé aussi beaucoup à s'informer, quoi. Et puis, On a cherché des contacts. Bon, on a eu qu'un contact avec l'Institut de l'élevage à Oulan-Bator, qui est la capitale de la Mongolie. Et grâce à ça, donc, on a un visa, on peut partir.
Voilà, donc à préciser que ce n'est pas ouvert à tous les routards et autres.
Alors, donc, à préciser, comme je te disais, Gilles, tout à l'heure, c'était il y a 6 mois comme ça. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment c'est. Peut-être qu'on peut aller très facilement en Mongolie. On va à l'ambassade aujourd'hui à Boulogne. On a un visa.
Peut-être que ça marche. Tout change très vite, quoi.
Et de l'Asie, bon, donc on peut avoir facilement un visa. On a rencontré des gens qui voyageaient, qui arrivaient du Laos ou du Vietnam, qui avaient eu 2 à 3 mois de visa sans problème pour la Mongolie. Alors c'est pareil, quoi. Selon d'où on vient, on ne sait pas, quoi.
Enfin, votre prétexte, vous, c'était d'aller faire de la tonte. Donc, voilà. Vous êtes parti avec du matériel. Et c'est pas n'importe quoi, hein, c'est quand même assez lourd. Il y a quelques
45
caisses.
45 kilos de matériel. Enfin, bon, on nous a donné. Hein, c'est une boîte, une association d'éleveurs français qui a une coopérative qui nous a donné ce matériel et qui l'a acheminé jusqu'en Chine. Et puis de Chine, nous, on s'est arrangé pour l'acheminer en Mongolie. Sevdekte urimin togar khadhar sitil durhmin uimred wa khima Dong hideri mora do da chibana.
Alors, quand on veut aller en Mongolie et qu'on vient de France, on prend le Paris-Pékin d'abord.
Ouais, on peut faire ça. Ouais.
Par exemple, c'est ce que vous avez fait.
Ouais.
Et alors ?
Eh ben, on a voyagé avec la compagnie thaïlandaise. Alors là, c'est super confortable. Bravo.
Oui.
Et puis, on est arrivé à Pékin. On avait un contact à Pékin, un copain de Marie, là, qui travaille à Pékin depuis 4 ans. Donc, c'était carrément génial, quoi, pour dire.
Vous aviez quelqu'un pour vous attendre à l'aéroport.
C'était fantastique parce que, en fait, on ne s'était pas du tout investi sur la Chine. Hein. On allait en Mongolie, donc on ne s'était pas du tout...
C'était juste une escale, quoi.
Ouais, c'est ça. Une escale quand même importante, puisqu'on n'avait ni billet de train, ni ou billet d'avion pour aller en Mongolie. Donc, il fallait quand même qu'on trouve...
Ah oui, c'est donc à Pékin que vous avez négocié votre billet Pékin Oulan-Bator, qui est donc la capitale.
Voilà. Et là...
Ça a été facile
Ça a été facile grâce à Olivier, spécialement grâce à sa secrétaire qui nous a démêlé ça. On voulait arriver à Oulan-Bator avant le 11 juillet, qui est le jour de la fête nationale en Mongolie, qui fête l'anniversaire de la Révolution. Et donc, on est arrivé à Pékin le 5 ou 6 juillet. Et ce n'était pas évident de trouver un billet. De train, ça a été impossible. Donc, on a été obligé de prendre un billet d'avion, ce qui nous a coûté plus cher. Ce n'était pas trop prévu. Mais c'est la secrétaire d'Olivier qui nous a trouvé ça. Nous, on ne s'en est pas du tout occupé. Bon, arrivé en Chine, déjà, on avait pas mal de choses à faire. Nos bagages étaient restés à Bangkok. Donc, il fallait qu'on les récupère. On avait ce matériel de tonte à sortir de la douane et tutti quanti. Donc, c'était déjà bien assez compliqué comme ça. Mais donc, elle s'est occupée de nous et on est parti pour Oulan-Bator. Mmh. Enfin, à Pékin, nous, on a bien vécu à Pékin. Et puis, on était super contentes de voir. Pour ça, c'était un bon voyage parce qu'on a vu la Chine. Bon, quelques jours, hein, c'est pas grave, mais Pékin, 3 mois en Mongolie, puis bon, le retour, c'est par le Transsibérien, donc c'est sympa, on a fait un bonne balade. Quoi.
Une bonne boucle, ouais. Et retour en train, on en parlera donc à la fin de cette émission. Vous arrivez à Oulan-Bator dans les dates prévues pour cette fameuse...
La veille.
Voilà, pour cette fameuse fête. Alors explique.
Trois
jours de fiesta.
L'arrivée à Oulan-Bator, l'aéroport, il n'y a pas grand-chose, hein, vraiment, c'est un désert, quoi. Mais bon, c'est...
Une bonne idée de la Mongolie tout de suite,
c'est... Oui, tout à fait.
La steppe.
Oui, la steppe tout de suite, quoi. L'aéroport, il est à 4-5 km de la capitale, mais bon, il est en pleine steppe. Tout est en pleine steppe, de toute façon, là-bas. Donc. Et on est arrivé donc à Oulan-Bator et on a réussi à rencontrer les gens de l'Institut. Donc ils nous ont trouvé un hôtel et puis pendant trois jours ils se sont occupés de nous, de nous promener dans cette grande fête qui se passe en ville. Il y a un grand stade à Oulan-Bator où se déroule la lutte, parce que la fête nationale c'est une fête qui commence par un défilé. Alors avant c'était un défilé militaire, maintenant c'est un défilé à l'honneur de Genghis Khan, hein, le grand empereur mongol.
Celui qu'on appelle Gengis Khan.
Voilà, d'accord, c'est ça. Ouais. Et que si tu dis Gengis Khan, personne ne comprend, donc tu changes tout de suite. Et puis, donc ce grand défilé, ensuite de la lutte dans le stade, il y a un autre sport qui est le tir à l'arc. Et puis troisième sport, ce sont les courses de chevaux, qui sont très très prisées. Quoi. Et là, les courses de chevaux, elles se passent un petit peu en dehors de la ville. Et c'est pour ça que c'était bien pour nous d'être avec des gens qu'on ne comprenait pas, hein, puisqu'ils parlaient mongol et nous français ou anglais, mais qui nous ont bien baladés d'un point à l'autre, sinon on aurait raté beaucoup de choses. Le temps de comprendre les bus et ceci et cela, là c'était bien.
C'était bon accueil, ouais, donc, ouais. Par cet institut, tu peux rappeler ce que c'est
Institut de la recherche, institut de l'élevage à Oulan-Bator, bon, qui s'occupe de toutes les races domestiques, de la chèvre, de la brebis et autres, chameaux, bon, la génétique, et ainsi de suite, des trucs comme ça, quoi. Qui coordonne plusieurs instituts qui existent en Mongolie, qui sont répartis dans toute la Mongolie.
Et alors, ces gens sont des techniciens, des spécialistes, voilà. Ils sont européanisés ou
Alors, ces gens-là, ce sont des gens qui ont tous fait leurs études en URSS, principalement à Moscou. Oui, c'est marrant. Alors le mongol, il est bizarre parce qu'il est mongol, quoi, mais il a toujours un petit côté qui est chinois, un petit côté qui est russe. Et tu cherches qu'est-ce qui est vraiment mongol, quoi. Alors bon, au bout d'un moment, tu trouves. Mais c'est marrant parce que, bon, alors ils parlent tous russe, ils sont très russes, quoi. Ils sont très soviétiques, ces gens de l'Institut, quand même. Bien qu'ayant leur tradition mongole. Hein. Ils ont fait leurs études là-bas, ils ont passé 4, 5, 6 ans. Donc ça les a marqués, hein, quand même.
Russifiés un petit peu. Mais volontairement, je veux dire, pas. C'était pas quelque chose de contraignant. Tu as pu en parler avec eux, c'était quelque chose d'évident et de bien.
Oui, on le sent pas comme une contrainte. Ils sont contents. Hein. Mais de toute façon, la réflexion des gens, c'est quand même... quand on est arrivé, donc, la situation politique change en ce moment en Mongolie, mais tous les gens disaient, mais vous seriez venus il y a 2 ans, parce qu'on est arrivé à Oulan-Bator, bon, il n'y avait rien, quoi. Tu sais, comme on dit, nous, occidentaux, quand on va à l'Est, on dit, il n'y a rien.
Dans les magasins.
C'est pas vrai qu'il n'y a rien. Mais pour nous, il n'y a rien, quoi. J'ai compté 87 marques de yaourt à Champion l'autre jour. Alors, effectivement, au supermarché à Oulan-Bator, il y en a une. Hein. Donc, il n'y a rien. Mais c'est fou, quoi. Alors, c'est...
Il n'y a rien dans les magasins, mais c'est un petit peu la caricature, les gens font la queue, etc.
Si, quand même, oui, il y a la queue, c'est vrai, mais c'est... Pour nous, c'est vraiment choquant. Ce que je voulais dire, c'est que les gens disaient, il y a 2 ans, vous seriez venus quand les Russes, quand les Soviétiques étaient là. C'était pas du tout comme ça. Et si tu veux, les gens... on aurait tendance à croire, nous, que les gens sont contents que le communisme soit parti. Mais en fait, la première réaction, c'est pas une réaction de contentement, du moins en Mongolie. C'est plutôt un constat que, y a plus les Soviétiques sont plus là, mais c'est la dèche, quoi. C'est maintenant que les magasins sont vides, c'est maintenant qu'on a des difficultés, c'est maintenant qu'il commence à y avoir du chômage.
Le grand frère est parti.
Voilà. Donc tous ces gens qu'on a rencontrés à l'Institut, c'était des gens qui étaient plutôt proches des Soviétiques et qui, eux, l'avaient bien vécu, je pense.
Mais donc, ils le vivent mal maintenant.
Pour l'instant, ils le vivent mal pendant quelques temps et ils le vivent un peu mal.
Bien, on revient à ces trois jours de fête. Donc, il y a défilé, tir à l'arc, chevaux, etc. Est-ce que tu peux décrire un petit peu l'ambiance? C'est la grande pagaille, la grande fiesta.
C'est l'effervescence autour des chevaux, hein, spécialement. Bon, parce que là, il y a pas mal de Mongols qui viennent, qui se déplacent. Ils sont nomades, mais ils se déplacent pour le Naadam d'Oulan-Bator. Ça s'appelle le Naadam, la fête nationale. Et là, ils viennent avec leurs tentes. Ils ne déplacent pas la yourte, qui est l'habitat traditionnel, parce que c'est trop lourd quand même. Donc ils ont des tentes en toile assez grandes, décorées. Et là, ils sont très très nombreux autour du terrain où se passeront les courses de chevaux. Et les courses de chevaux, ce sont des courses à fond les gamelles, au grand grand galop, quoi. Souvent des courses pour les enfants, c'est le galop des juniors, quoi. En fait, les jockeys sont les enfants. Entre 5 et 10 ans, on les voit galoper comme des fous. Bon, il y a plusieurs courses et puis il y a des éliminatoires et ainsi de suite. Bon, le gamin qui gagne le Naadam d'Oulan-Bator, il s'en souviendra toute sa vie. Et ses enfants et ses petits-enfants s'en souviendront. Et sa photo sera dans la yourte pas pour des siècles, mais quasiment.
D'accord. Donc c'est un peuple de cavaliers, on peut le dire. C'est l'image qu'on en a.
Ouais. Vraiment.
Les hordes de Gengis Khan.
Ouais, ouais.
C'est donc l'arc et les flèches, le cheval. Alors le cheval, tu peux peut-être nous en parler un peu. Est-ce que vous avez pu faire du cheval, vous?
Alors nous, non. Alors nous, on est déçus par notre voyage en Mongolie. On est vachement contente, mais on est déçus parce qu'on n'a pas fait de cheval. Et c'est dommage. On est monté sur des chevaux, évidemment, mais bon, c'était pas ça le rêve. Le rêve, c'était d'aller se promener pendant 10 jours, une semaine, 15 jours, j'en sais rien.
Voilà, vous auriez aimé faire une grande randonnée.
Itinérer à cheval. Mais en fait, bon, le cheval, il n'est pas considéré comme ici, en Mongolie. Le cheval, c'est un ami, vraiment. C'est vraiment un ami du nomade, mais c'est son outil de travail, quoi. Donc, quand on est sur un cheval, en général, c'est pour aller chercher les troupeaux de vaches, de moutons ou autres. Et puis bon, les chevaux, on les utilise aussi, on traite les juments, hein, puisque les Mongols, ils boivent du lait de jument fermenté pendant à peu près 6 mois par an. Et je pense j'aurais pu ramener un Mongol avec moi si j'avais eu une outre de lait de jument fermenté, m'aurait suivi, quoi.
Ah oui, à ce point-là, ils sont...
Ils sont fanas de ça, quoi. C'est amusant de voir... Bon, il y a des Mongols qui sont citadins maintenant. Mais qui, en fait, ils sont encore très très proches de leur nature, quoi. Mais un Mongol citadin qui s'arrête dans une yourte, il est tout fou, tout excité, quoi. Il va boire de l'Airak, il est ravi, quoi.
Et alors, c'est bon?
Ouais, c'est bon. Oui, c'est donc un lait fermenté, c'est acide, c'est un yaourt très liquide, quoi. Ouais, c'est très bon, c'est très nourrissant. Eux, ils trouvent que ça a des vertus fantastiques, mais c'est quand même alcoolisé. Ça fait... c'est comme une bière, hein, entre 4 et 6 degrés, quoi. C'est amusant parce que les gamins en voient beaucoup aussi, quoi. On voit souvent des enfants de 5, 10, 15 ans.
Donc il y a un côté euphorisant un peu chez tout le monde, là.
Ouais, euphorisant et puis de temps en temps écroulant aussi, parce qu'à force, l'été, quand il fait bien chaud, on boit l'Airak et puis on va faire une petite sieste, quoi.
On tombe. Alors les enfants, je crois que tu as pu les rencontrer parce que vous avez eu la chance donc d'aller pendant une semaine chez un éleveur. Après ces 3 jours de fête qui vous ont accueilli en fait à Oulan-Bator, vous êtes parti dans la steppe.
Ouais, on est parti par le biais de l'institut aussi. Alors là, chez des gens qu'on connaissait absolument pas, c'est assez étonnant, quoi. Mais l'Institut avait choisi pour nous une famille d'éleveurs. C'est une famille qui avait 7 enfants, qui de 8 ans à 20 ans, à peu près. Et puis qui vivaient avec... les yourtes sont regroupées en ailes. Ça correspond un peu à une famille élargie. Là, il y avait 2 frères, leurs femmes et leurs enfants, et puis des cousins qui étaient là. C'est un groupe de yourtes qui se déplacent toujours ensemble. Et donc on a passé une semaine avec ces gens-là, c'était super parce qu'on a bien bien vu comment se déroule la vie des nomades. Et ça nous a un peu étonnés parce que pour nous aussi le Mongol, on se pensait qu'il était très nomade. En fait, quand je veux dire très nomade, je l'aurais presque vu bouger au jour le jour, quoi. Et en fait, il bouge au printemps et à l'été. Il bouge tous les 10-15 jours, ils se déplacent selon quand l'herbe est finie, quand l'herbe est pâturée. Et puis ils font des déplacements très petits, puisqu'on s'est déplacé avec eux, donc on a eu la chance de démonter la yourte, remonter la yourte. Et là, on s'est déplacé juste sur une dizaine de kilomètres. C'était vraiment pas grand-chose, quoi. Et on a bien vu comment ça fonctionnait. Et, en fait, les gens se partagent les pâturages. C'est une entente entre les nomades. Hein. Il n'y a pas de rivalité, là. Il n'y a pas de tension. Bon, c'est comme ça. C'est organisé, plus ou moins. C'est officiel et en même temps, c'est tacite, quoi. On ne va pas manger sur le pâturage du voisin. C'est comme ça.
Et alors, justement, comment ça peut cohabiter, ça, les éleveurs et le côté collectif qui demeure quand même du fait du communisme?
Oui, bah, le côté collectif, c'est marrant, c'est étonnant, quoi. Le côté collectif, bon, on le voit dans le fait qu'ils ne sont pas propriétaires de leur troupeau. Ou du moins, ils sont propriétaires de, je crois, à peu près d'un quart du troupeau. Le reste appartient à l'État. Ils ne sont pas propriétaires des terres. Et puis, tout ce qu'on voit comme matériel, bon, par exemple, là, on a déplacé la yourte en tracteur. Et puis, on a vu des régions où on faisait aussi des récoltes de céréales ou autres, donc il y avait des moissonneuses batteuses. Tout ça, c'est collectif, quoi. Enfin, c'est d'État, quoi. Il n'y a pas vraiment des fermes. C'est marrant. Enfin, bon, il y a une collecte de lait, par exemple. Il y a une collecte de lait de vache. Donc là, c'est... l'éleveur ne donne pas tout son lait. Il en garde un peu pour lui, pour faire son fromage. Mais bon, il donne son lait quand même à la coopérative laitière. Et puis, ce lait, il sera distribué soit sous forme... de lait donc liquide pour je sais pas en ville ou autre ou dans les petits villages ou bien on va faire du fromage des trucs comme ça.
Ils sont rétribués en échange de ça, tu sais pas que, si on leur paye leur
lait. Oui, on leur paye, ouais, on leur paye. Mais on leur paye minimement, quoi. Et là c'était étonnant parce que bon, maintenant c'est les éleveurs sont en train de racheter leurs troupeaux puisque la collectivisation c'est terminé pratiquement en Mongolie. Alors ils rachètent leurs troupeaux et maintenant il se passait un phénomène assez fou cette année en Mongolie, c'est que c'est un pays où il y a 25 millions d'animaux, de têtes de cheptel entre bon, chameaux, bœufs et autres, moutons. Il y a 2 millions de personnes. Et ils en étaient à devoir presque importer de la viande, parce que les éleveurs ne veulent plus vendre la viande à l'État, parce que l'État leur paye très très mal. Donc on lisait dans les journaux qu'il était possible que la Mongolie soit obligée d'importer de la viande cette année, ce qui paraît très fou, quoi, parce qu'elle a largement, largement de quoi nourrir sa population.
Oui, mais ça, le changement entre des systèmes un petit peu différents nécessite du temps, bien sûr. On revient aux enfants, à cette famille un peu que tu as côtoyée pendant 10 jours. Ça doit être assez insolite. Est-ce que vous pouviez participer, je ne sais pas moi, aux travaux? Est-ce que vous avez été intégré à cette famille?
On n'a pas pu beaucoup participer aux travaux... domestique, hein. On était 2 filles et les filles de la famille, là, spécialement de la famille avec qui on était, bon, c'était des filles qui avaient 20 ans, 18 ans et l'autre qui avait 14 ans. Donc c'était relativement facile pour nous de communiquer, de s'entendre et tout. Mais elles n'ont pas tellement voulu nous laisser participer aux travaux. Par exemple, bon, il fallait aller chercher de l'eau dans un endroit... absolument infâme, où tous les animaux piétinaient, mais bon, c'était comme ça. Et ben, c'était difficile d'aller chercher de l'eau, aller porter le lait au camion, c'était difficile. La traite, bon, c'était hors de question qu'elle nous laisse traire les juments ou les vaches. Ce qu'on réussissait à faire, c'est d'aller ramasser les bouses, hein. Ça s'appelle l'argal, donc on se chauffe à l'argal et on fait la cuisine à l'argal en Mongolie, puisqu'il n'y a pas d'arbres. Donc on ramasse tous les excréments de vaches, de moutons, de chevaux et autres.
Séché, il faut le
Sécher,
préciser.
Voilà. fait des stocks pour l'hiver. Hein, et puis,
ça se fait dans beaucoup de pays, ça, en Inde,
ouais,
par exemple.
Voilà, en Inde, ça se fait beaucoup, dans l'Himalaya. Ouais,
donc, ça, vous pouviez participer à ça?
Oui, bah, je sais, ouais, c'est pas une tâche très noble, mais on était très, très contentes d'aller chercher de l'argal. Mmh. Puis bon, on a réussi à attraper quelques brebis, à en tondre quelques-unes aux forces, parce que nous, avec notre matériel électrique, ben.
C'était
on n'était pas bien partis parce qu'il n'y a pas d'électricité.
Il n'y a pas de groupe électrogène.
Il y a quelques groupes électrogènes, mais il n'y a pas de pétrole. Mmh. Alors, il y a un mot qu'il faut connaître en Mongolie, c'est barco. Barco, ça veut dire « il n'y en a pas ». Et ça, tu l'entends à toutes les sauces. Alors, Benzine Barco, notamment, c'est tout le temps, tout le temps.
Il n'y a pas de pétrole.
Il n'y a pas de pétrole.
Dur, dur. Donc, vous n'avez pas pu faire ce pour quoi vous étiez un peu allé, quoi.
Non,
la tonte des démonstrations ou des choses comme ça, ça n'a pas pu se faire.
Pas du tout. En plus, bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement l'esprit, l'esprit des gens, quoi. Bon, le travail ici, en France, moi, je fais la tonte, donc je vois comment se fait le travail. Les éleveurs, ils veulent que ça aille vite, ils sont pressés et tout. Les Mongols, ils ont 3 mois pour tondre leur brebis. Ils en ont 250, 300, 400. Ça va, quoi, ils sont pas pressés.
Ça se fait donc à la main, tranquille.
Voilà, on en fait 10 par-ci, on en fait 10 par-là. Et puis...
On en parlait tout à l'heure par rapport au statut de la femme mongole. Est-ce qu'il y a cette position de force de l'homme, cavalier, etc. Et puis la femme soumise qui fait les travaux ménagers. Est-ce qu'on retrouve ce schéma?
Alors, la femme fait plutôt les travaux ménagers, ça c'est vrai. Notamment, bon, oui, tout ce qui concerne l'intérieur de la yourte et tout, la cuisine, mais aussi la traite, donc, traite des juments et traite des vaches. Mais par contre, la femme mongole n'est pas du tout une femme soumise. Enfin, moi, j'ai ressenti que la femme mongole, elle était bien dans sa peau, bien...
Pas les yeux baissés, tu me disais.
Ouais, hein. Pas du tout les yeux baissés, ouais, bah, c'est-à-dire, on compare, je sais pas, quand on se balade comme ça, on peut comparer à d'autres pays, hein, on peut comparer un peu à l'Inde, on peut comparer aussi, on compare les religions. Bon, les Mongols sont bouddhistes. Moi, quand je pense aux yeux baissés, je pense aux pays musulmans beaucoup, parce que je vois comment ça se passe dans les pays musulmans. En Mongolie, bon, la femme, elle a vraiment sa place. Hein, elle fait tout ce qu'elle veut. Puis dans la vie urbaine, dans la vie citadine, elle est tout à fait. Elle a du travail. Je veux dire, à l'institut de l'élevage, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient. Elles travaillent dans les boutiques. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'elles font des travaux durs, dits durs, puisqu'il y avait des femmes maçons. Mais ça, c'est le communisme. Hein. On est tous égaux devant le travail, donc les femmes...
À la truelle.
À la truelle. Bon, ça m'a étonné, ça ne m'a pas choqué, mais ça m'a étonné.
Les enfants vont à l'école, puisqu'ils se baladent comme ça.
Ouais.
Alors, où sont les écoles pour les itinérants?
En fait, donc ils se baladent, mais pas l'hiver. L'hiver, les Mongols se regroupent dans des campements d'hiver, où il y a, en fait, on en a vu quelques-uns, il y a l'école. Et puis sinon, il y a les yourtes tout autour, quoi. On installe la yourte autour. Et puis il y a des petits cabanons, des petits endroits un peu pour stocker un petit peu plus de choses, quoi. Parce que c'est l'hiver, pour garder l'argal ou des choses comme ça. Et moi, j'ai trouvé que les Mongols, ils étaient très, très ouverts, très, je dirais, cultivés. Enfin, dans la yourte, dans cette famille où on était, donc de 8 à 20 ans, tout le monde savait lire, tout le monde savait écrire. Enfin bon, Tsuka, c'est l'aînée, elle a 20 ans, mais on l'a retrouvée à Oulan-Bator, elle était à la fac. Hein. Nous, on y était l'été, elle trayait les juments, mais elle est à la fac. Sa sœur Tseg, c'est pareil, elle a 18 ans, elle était à la fac aussi. Ce qui est marrant, par exemple, c'est que le père de Tsuka, il a voulu apprendre l'anglais. On est arrivé là, et puis pendant 2 jours, on ne l'a pas vu. Puis au bout d'un moment, il est sorti. Et puis il a vu que nous, on parlait un petit peu mongol, qu'on avait attrapé quelques mots. Alors il s'est dit, tiens, c'est intéressant. Il a voulu apprendre l'anglais. Il ne nous a pas lâchés pendant une semaine, mais vraiment. Hein, dès qu'il nous voyait, qu'il pouvait nous attraper. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il n'a pas mis 30 secondes à trouver un cahier neuf et un crayon dans sa yourte. Je veux dire, c'est quand même, ça montre, pour moi, ça montre quelque chose, quoi. Je pensais que dans une case pygmée, tu peux toujours t'accrocher pour trouver un crayon et un cahier, quoi.
J'ai eu la chance de voir quelques photos, des diapositives que tu m'as passées. C'est très, très beau, l'intérieur de la yourte. C'est propre et en même temps il y a quelque chose, quoi. C'est très chouette. Moi, ça m'a étonné.
La forme de la yourte, bon, c'est cylindrique, hein, c'est vraiment, c'est sympa, hein, je veux dire, tu rentres, tu as l'impression de rentrer dans un petit nid, quoi. C'est assez bien décoré, tout ce qui est en bois, enfin pas tout ce qui est en bois, mais beaucoup de mobilier en bois est peint, de couleurs assez vives, hein, souvent des rouges avec des bleus, des blancs très vifs, et puis, la yourte, c'est je peux pas tout décrire, mais enfin, il y a beaucoup de, par exemple, il y a beaucoup de baguettes
en
bois qui tiennent un cylindre central, la roue centrale, quoi.
C'est... On pourrait comparer ça à un gros panier, en fait, hein, quand il n'y a pas le, quand il n'y a pas le feutre dessus, parce que je crois qu'il y a plusieurs couches de.
Ouais, c'est ça, c'est recouvert de feutre. Ouais, je voulais dire que ces baguettes, il y en a, je sais pas, 80, mais elles sont toutes décorées. C'est quand même, c'est sympa, quoi. Et ça, c'est l'armature de la yourte. Et puis après, du feutre par-dessus. Parce que, bon, les Mongols, ils vivent vraiment avec ce que la nature leur a donné. Alors, c'est un peu marrant parce qu'il n'y a pas de bois. Je disais tout à l'heure que c'était désert. Et quand même, dans la yourte, il y a beaucoup de bois. Mais bon, il y a des forêts dans le nord. Le bois, il est venu de là-bas. Il y avait peut-être plus de bois avant, comme on dit toujours. Maintenant,
que
on a tout coupé.
Les éleveurs font reculer un peu la forêt.
Mais sinon, donc, c'est une maison de bois et de feutre.
Хүчин дэмжил зөвлөгөөний маань эхэллээ. За энэ зөвлөгөөнөөр бид юу шийдэв вэ? Нэгдүгээр одоо энэ улс орны эдийн засгийн хүнд байна. Юмны үнэ гэдэг чи одоо бүр асар их өндөр болчлоо. Ийм учраас зар үчигийнхаа үнийг бид нэр 20 төгрөг болголоо.
Ne cherchez pas, c'est du mongol. On n'en a pas souvent l'occasion d'écouter du mongol. Donc avec Anne, qui a passé 3 mois avec son amie Marie en Mongolie, on fait un petit tour et on a vraiment l'impression de se retrouver dans le film Urga, que beaucoup de gens ont vu. La yourte, tout ça, tout ce que tu décris et tout ce que j'ai pu voir sur les photos, c'est vraiment... Il n'y a pas de faute, quoi.
Non, hein, mais il est super. Ouais, ce film est très très bien.
Donc, n'hésitez pas si ça passe près de chez vous. On peut revenir sur la musique qu'on entend un peu derrière, qui est une musique vraiment étrange. On s'attend, enfin moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que tu peux en dire plus sur éventuellement ce que tu as entendu, ce que tu as vu à la télévision, tout ça ?
Oui, j'ai trouvé, ce qui m'a étonné en Mongolie, ce sont les voix spécialement, quoi. Plus que les instruments, et les voix... des gens qui sont professionnels du chant, mais les voix de tout le monde. C'est-à-dire que on peut pas passer une heure avec un Mongol sans qu'il pousse la chansonnette, quoi. C'est marrant, notamment, on l'a vu beaucoup quand on a voyagé en camion, là, notre chauffeur. Il chantait tout le temps parce que... Et puis, il chantait bien, quoi. Je trouve qu'ils ont tous des voix d'opéra, quoi. Vraiment très, très modulées. Les hommes aussi bien que les femmes. Les enfants, ils apprennent à chanter très, très tôt. Ils apprennent à chanter, hein, aussi. C'est pas quand même... C'est vrai que c'est une passion chez eux. On sent que le chant, c'est une passion. Et on voit les gamins qui apprennent à chanter très, très tôt. Il y a des jardins d'enfants en Mongolie, hein. Il y a des crèches et tout ça, hein. Faut pas croire. Et là, dans les crèches, on apprend aux gamins et puis à la maison aussi, on apprend aux enfants à chanter. Sinon, bon, les instruments, la musique, elle sonne un petit peu asiatique quand même, hein. Ça fait penser un petit peut-être à la Chine, que je connais pas trop, mais ça me fait penser un peu à ça. Ils utilisent un instrument qu'on connaît bien, c'est la guimbarde, par exemple. On utilise la guimbarde en Mongolie. Puis il y a une façon de chanter qui est spéciale, et un sifflement. Je ne sais pas si on a écouté tout à l'heure un petit peu. Un sifflet entre les dents, là, comme ça. Comme ça, bon, j'arrive pas très bien à le faire. Il y a aussi des voix, mais que j'ai pas entendues, mais qui ressemblent, qui pourraient faire penser à des voix de ventriloque, c'est-à-dire on sent un son qui sort de très profond
de l'estomac
ou de je ne sais où. La musique, c'est très très présent. Hein, ils aiment vraiment beaucoup ça. Il y a un opéra à Oulan-Bator et les gens. Nous n'avons pas eu l'occasion d'assister à une représentation, trois fois hélas, mais les gens aiment beaucoup ça. Quoi. On le sent, à la télévision, il y a énormément de moments où il y a des chants traditionnels. Et puis la musique moderne, elle est électrique, mais elle est aussi beaucoup attachée à la voix. Beaucoup toujours, très attachée à la voix.
Il y a un rock mongol, ça existe ça?
Ouais, il y a un groupe de rock qui s'appelle Genghis Khan, évidemment. Oui, il y a un peu du rock mongol, mais on n'a pas beaucoup entendu de musique vraiment moderne. Il n'y a pas beaucoup. Alors, il n'y a pas de lieu pour entendre de la musique. Ça, c'est. À part ça, quoi, de la musique moderne. Si tu veux, il y a un peu la radio, il y a un peu des
trucs par comme exemple, ça, à la faculté, dans les universités, ou à Oulan-Bator, est-ce qu'il n'y a pas des lieux où les jeunes se retrouvent
Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, je vais te dire qu'il y a quatre bars. À Oulan-Bator, c'est la capitale. Il y a quatre bars qui sont ouverts la nuit à Oulan-Bator. Ça ne fait pas beaucoup, quoi. Notamment un qui s'est installé dans l'ancien cirque d'Oulan-Bator. Et là, c'est assez sympa parce que, bon, il y a de la musique et en même temps, il y a un spectacle. Spectacle de cirque, entre autres. Enfin, la fois où on a eu l'occasion d'y aller. Et bon, c'est bien parce que les Mongols, pour le cirque, sont très, très forts aussi. Hein, très bons acrobates. Contorsionnistes, jongleurs, ils sont assez forts. Mais on a eu du mal à rentrer dans ce bar. Hein. Il a fallu vraiment montrer patte blanche. Heureusement qu'on était avec un Mongol, parce que sinon, c'était pas évident. Hein.
Et qu'est-ce qu'ils mangent, alors?
Ils mangent de la viande. C'est des mangeurs de viande, vraiment. Je dirais pas à toutes les sauces, puisqu'ils mangent principalement de la viande bouillie. En fait, ça se comprend parce que, enfin, ils ont pas de bois, ils vont pas faire des méchouis, hein, c'est évident. Donc, de la viande bouillie. Alors, en fait, quand on tue la brebis, alors, on prépare d'abord toutes les entrailles. Hein, ça, c'est le mets, le premier mets.
Tu as vu comme dans le film, voilà, la façon de
comme
tuer.
Comme dans le film, ouais.
Très, très spécial, en douceur. Voilà. Et...
Ouais, enfin, ouais. Là, les avis sont partagés. Hein, en douceur, ouais. Enfin, c'est pas sûr. Alors, on mange la viande donc bouillie. Alors, on fait ce qu'on mange beaucoup, ce sont les boudes, ce sont les raviolis. Alors, je pense que ça vient de la Chine. Hein. Les raviolis, ça vient de la Chine. C'est un peu comme les momos. Donc, ça, tout est fait à la maison. On n'achète pas les raviolis chez Buitoni. Hein. On les fait à la maison. Donc, on roule la pâte et puis on prépare la viande. Et puis, les raviolis, on les fait cuire à la vapeur. Sinon, on mange beaucoup des soupes de pâtes avec de la viande. On mange aussi des fritures, alors frites dans la graisse de chameau, par exemple. C'est quand même assez original. Des beignets frits. Et puis, alors, quand on a fini de manger de la viande, bon, ben, le reste de l'alimentation, ce sont les laitages. Les fromages, du yaourt. Alors, le fromage, il va du stade caillé jusqu'au stade béton, quoi. À la fin, on s'y casse les dents. Souvent, ce sont des fromages de vache, un peu de fromage de chèvre.
Il y a des galettes. Salées. Il y a des galettes, style, je sais
Chapatis,
pas,
oui, oui. Non.
Pas de pain, pas de choses comme ça.
Si, du pain comme chez nous, quoi. Sinon, non. Mais en fait, si tu veux, on mange beaucoup de choses à base de farine. Tu vois, les raviolis, c'est déjà à base de farine. Tous les beignets sont à base de farine, donc tu vas pas rajouter. Alors, pas de légumes. Enfin, dans une yourte chez des nomades mongols. Pas un légume, pas un fruit, quoi. Ça n'existe pas. Alors, c'est dur pour...
Ça doit manquer un peu.
C'est dur pour nous.
Et tout ça, c'est épicé? Il y a des sauces, il y a des choses avec ou
Non, c'est pas épicé parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, quand il fait au moins 40 l'hiver, c'est un pays où il n'y a aucune épice qui pousse. Les seules épices, ce seront l'ail sauvage, un peu du thym, du serpolet, des choses comme ça, quoi, mais... C'est pas relevé, hein. Non. C'est une... Non, c'est pas une cuisine relevée. C'est bon, mais bon, c'est c'est très gras, hein, c'est pas bon pour la santé.
Les raviolis sans la sauce tomate, ça doit être un peu gênant quand même.
Non, ah non, mais les bousses, quand c'est frais, c'est super. Ouais. Ah ouais, c'est très bon. Faudrait pas en manger tout
pas
le temps.
Pas tous les jours.
Le temps.
Voilà. Alors, je crois que tu as eu une anecdote un petit peu marrante. Ils pratiquent la chasse à la marmotte, tu m'as dit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Enfin, alors, ils sont très, très chasseurs, les Mongols. Hein. Mais on était en camion, là. On voyageait pour aller dans le désert de Gobi, qui est au sud, là, qui fait frontière avec la Chine. En fait, le désert de Gobi, il prend une partie de la Mongolie extérieure, donc, et aussi une partie de la Chine. Et là, on voyageait avec des camionneurs qui transportaient du pétrole. Donc, c'était bien pour nous, pour une fois qu'on ne nous disait pas benzine barco, on était contents. Et notre chauffeur, il était tout excité parce qu'il avait son fusil derrière son siège et il fallait qu'il s'arrête absolument. Et il voulait chasser la marmotte et à un moment, il s'arrête et on le voit qui commence à se déshabiller. Il enlève son pantalon, sa veste et tout. On dit, mais qu'est-ce qu'il trafique et tout. Alors, il sort un petit sac. Et il se déguise en chasseur, alors pantalon blanc et veste blanche, là, jusque-là, bon, ça va, quoi, il ressemblait un petit peu à un cuisinier. Et puis après, il se met un petit chapeau sur la tête avec des oreilles de Mickey Mouse, un petit peu, et puis un petit plumeau qu'il agite derrière son dos, un petit peu comme un balai ou autre. Et là, on était vraiment tordus de rire avec Marie, et moi, je descends du camion pour le prendre en photo. Et il voulait absolument pas. Il a dit non, 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 je veux pas. Alors il a enlevé son chapeau. Bon. Et puis ensuite il l'a remis, il est parti à la chasse. Et en fait, c'est pour tromper la marmotte, quoi.
Mais il se déguise en marmotte un peu, quoi.
Il se déguise pas en marmotte, en fait. Il se déguise en animal. Et tu sais, la marmotte, elle se met là sur ses pattes arrière. Et puis elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois. Et lui, pendant ce temps, pan.
Mais ça marche, il a ramené.
Et ça marche. Ah ouais. Et ça marche. Et nous, on se disait, mais c'est notre chauffeur, il est un peu.
Il a abusé du lait de jument fermenté.
Et puis non, tout le monde fait ça, quoi. C'est assez, c'est assez rigolo.
Mmh. Eh ben c'est drôle, je ne pensais pas qu'on chassait la marmotte en Mongolie en se mettant des petits chapeaux à oreillettes. On arrive peut-être à la fin de ce voyage, parce que pour raconter 3 mois en Mongolie, il faudrait de nombreuses heures. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont agacé, qui t'ont choqué, ou des choses vraiment qui t'ont marqué, mais d'une façon soit négative, soit positive?
Oh bah, positive, c'est les Mongols qui m'ont marqué d'une façon positive parce qu'ils sont vraiment super, quoi. Ils sont trop sympas, quoi. Accueillants au maximum. C'est carrément c'est la prise en charge par moment, quoi.
Il n'y a pas de problème de bakchiche, de choses comme ça, comme dans certains pays.
Non, ouais, c'est ça. C'est nature, c'est sans calcul, sans compter. En dehors du fait qu'on peut voyager donc dans les il y a des transports locaux, quelques bus, quelques camions qui sont payants, hein, mais sinon il y a plein d'endroits où il n'y a pas tout ça, donc on se débrouille, on va voir, vous partez pas, vous m'emmenez, et puis là bon, les gens ne nous demandent rien, hein. On en fait 500 km et puis on se dit au revoir et puis on est content, quoi. Mais aussi dans la yourte, quoi, chez les gens, c'est vraiment l'hospitalité très très forte, quoi. Et quand un Mongol s'occupe de vous, il s'occupe bien de vous, quoi. On s'est retrouvés au fond du Gobi, là, on n'avait plus de moyens de transport, on était un peu embêtés, quoi. On était un petit peu pressés aussi, comme tous les Occidentaux, ils sont toujours pressés. On avait un visa à faire rallonger. Ouril, il s'est occupé de nous, mais il s'est occupé de nous, je veux dire. Ça a commencé pendant 48 heures, il s'est occupé de nous tout le temps, parce qu'on a pris un camion avec lui, parce qu'on a été dans sa famille, parce que le camion, il n'avait plus de benzine, à nouveau, donc on en a trouvé un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il ne nous a pas lâchés, parce que, c'était
le
comme
sens,
ça.
Le,
ouais,
sens de
le sens de l'hospitalité, et puis... Sinon, agaçant, la bureaucratie, mais je pense qu'elle existe partout, mais c'était casse-pied, quoi, des fois. Alors, il y a un autre mot qu'il faut connaître en mongol, c'est margash. Ça veut dire demain. Et c'était souvent margash, quoi. Pour des choses qu'on aurait eu envie de faire vraiment. Bon, quand tu veux voyager pour toi, pour ton compte, tu t'en fiches si tu veux, mais quand tu as envie de réaliser un peu des trucs, quand c'est toujours demain, t'en as marre, hein.
C'est difficile. Alors, on terminera peut-être par le voyage de retour, qui est quelque chose d'important. Le transsibérien, on en parle beaucoup. Mm-hmm. C'est un mythe.
Ouais.
Alors, le train se prend à Oulan-Bator déjà, ou il faut faire un petit saut de puce avant de trouver le transsibérien?
Ah non. Bah non, le train, il vient de Pékin. Mm-hmm. C'est le transmongol, quoi, parce qu'il y a deux transsibériens. Il y a le transmandchou qui va de Chine directement en Russie. Et puis le transmongol qui de Chine passe par la Mongolie et rejoint la Russie. Et en fait, ces deux trains, le mandchou et le mongol, se rejoignent à Irkoutsk, près du lac Baïkal. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais. À moins que ce soit un peu plus haut, enfin bon. Et donc nous, on a pris le train à Oulan-Bator. Et on a pris un train chinois. On avait choisi un train chinois parce qu'on nous a dit que les trains russes n'étaient pas terribles. Et puis bon, tant qu'à faire, hein. On a dit on va choisir le mieux. Alors c'est sympa parce qu'on a retrouvé les Chinois qu'on avait quittés depuis un petit moment. Donc on a voyagé dans un train où il n'y avait que des Chinois. Et le transsibérien, c'était un train très confortable. Moi, j'ai trouvé ça très agréable de voyager dans ce train-là. C'est bien organisé. Alors, c'était folklore parce que les Chinois sont là pour faire du commerce. Donc, ils amènent des denrées à vendre à Moscou. Et pendant tout le voyage, à chaque arrêt, dans chaque gare, ils commencent à vendre leur camelot. Alors là, c'était principalement des vestes qui vont, des vestes en cuir et puis des doudounes, puis sinon bon, des babioles, des briquets, des mondes, des trucs comme ça. Et les Russes sont présents, ils savent que le train s'arrête. Il y a quand même 3 transsibériens par semaine, donc ils savent à quelle heure le train passe et ils viennent sur le quai de la gare et c'est les échanges. Combien tu la vends? Alors les Chinois, ils savent 3 mots de russe, les Russes, ils savent 2 mots de chinois, et puis bon, ça passe quand même, quoi.
Et ça se passe bien parce que...
Bien et pas bien. Mmh. Alors bien quand il n'y a pas la police, quoi. C'est interdit. Hein. C'est connu, archi connu, mais c'est interdit quand même. Et alors c'est marrant, tu vois, parce que quand même c'est récent aussi. Hein, parce que donc en 91, il y a un an, quoi, un copain, la Didou, et revenu par le transsibérien, ça ne se passait pas comme ça. C'est pour ça que je dis tout est récent, quoi. Peut-être que... Je ne sais pas. Bon, je pense que ce système d'échange, là, de marcher dans le train, ça va continuer. Au contraire, même, ça va prendre de l'ampleur. Mais je ne sais pas, ça va peut-être ne plus être interdit, par exemple. Enfin, bon, quand c'est interdit et qu'il y a la police, eh ben, ça se termine à coup de baston.
Ah oui.
Ouais,
là, tu as vu, ça,
j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu. Bon, c'était pas, ouais, c'est pas très sympa, quoi. Hein. Je veux dire, la police arrive sur le quai et puis on matraque un peu tout le monde, quoi. Un peu les Chinois, un peu les Russes, et puis mais les gens s'en vont pas vraiment parce qu'une fois que les flics sont passés, tout le monde ressort. C'est trop tentant, quoi.
Le business continue.
Alors les Russes, ils sont en ce moment, quoi, ils sont complètement accros à acheter, à vendre. Dans les deux sens, en fait, hein, parce que c'est tellement nouveau pour eux. Et quand tu arrives à Moscou, c'est saisissant, quoi. Parce qu'à Moscou, il y a des gens... C'est saisissant et triste aussi, hein, je veux dire, c'est pas le reflet d'une belle situation, quoi. Mais il y a des gens partout dans les rues qui vendent n'importe quoi. Et il y a des gens qui achètent aussi, quoi. Hein, je veux dire, ils sont là, l'échange se fait. Et ça, c'est pareil, quoi. Il y a un an et demi, il y avait personne dans les rues à Moscou, quoi. Ça change vite, quoi.
Tout s'achète, tout se vend.
Ouais, ouais. Mmh. Bah dans le train, bon, les Russes aussi vendent pas mal de trucs. Alors en ce moment, il y a des gens qui voudraient bien acheter à manger en Russie, hein. Mais il y a aussi des gens qui vendent tous les restes de l'armée soviétique. Donc on peut acheter à Moscou, à Arbat, une tenue de général complète avec... tout, les galons, les étoiles, et puis ils te vendent...
Les surplus de l'armée rouge.
Voilà, c'est fou.
C'était la fin du transsibérien, Moscou, donc
Oui. Moscou, c'est la fin, ouais. Enfin, si tu veux...
Ça prend combien de jours pour aller d'Oulan-Bator à Moscou?
Ça prend 5 jours. Et Pékin-Moscou, ça prend 7 jours.
Et donc, vous dormiez, mangez dans le train,
ouais.
Etc.
Ouais, ouais.
Mais ouais, très confort,
ah,
tu
ouais,
disais.
Ah ouais, super. Ouais, très sympa. Bon, bah, nous, on était dans un... On avait un peu de chance, parce qu'on était dans un compartiment avec des Chinois qui n'étaient pas commerçants. Enfin, c'était des jeunes. Parce que alors, quand on est avec des Chinois qui sont commerçants, c'est vachement sympa, parce qu'ils sont gentils comme tout. Mais ils ont beaucoup, beaucoup de matériel, quoi. C'est-à-dire que...
Il n'y a pas beaucoup de place.
Oh là là, c'est fou, quoi. On avait un copain allemand, là, qu'on a rencontré, mais il voyageait, lui, dans un compartiment hyper chargé, quoi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il saturait un petit peu, quoi. Mais... Puis... Bon, c'est sympa, hein. C'est un village, hein, le transsibérien. C'est un village, il y a à peu près 400 personnes dans le train, entre les passagers, les gens qui s'occupent des chacun. Par compartiment, il y a trois stewards. Bon, il y a le wagon-restaurant, il y a tout ça. On connaît vite les gens, hein. C'est bien pour ça. Et alors, quand on est arrivé en Russie, on a raccroché un morceau de train russe. Donc c'était marrant, il y avait deux pays, il y avait la Chine, le wagon-restaurant, puis après il y avait la Russie. Ça se mélangeait plus ou moins, mais enfin bon, nous on évoluait dans tout le train, c'était bien. Les Chinois n'allaient pas trop dans l'un ou dans l'autre, ils bougeaient pas tellement, ils voulaient vendre sur le quai, quoi, un truc comme ça.
D'accord, et donc arrivé à Moscou, là c'est un petit peu la redescente du voyage, tu disais que c'est quand même assez triste, quoi, de voir cette situation-là. Les gens coincés.
Coincés. Et puis, moi, je sais pas quel regard j'ai là-dessus. C'est un peu bizarre, mais en même temps, on a été chez un.
C'était pas la première fois, hein, que tu allais à Moscou.
Hein. Ouais, ça avait complètement changé. Mm. Enfin, je veux dire, le regard de la rue, il était complètement différent. Hein. Bon, d'un autre côté, beaucoup de gens qui vendent dans la rue, et tu sens qu'ils vendent vraiment, certains, ils vendent quelque chose pour s'en sortir, quoi, vraiment. Tu vois, une bouteille d'huile, une paire de godasses, mais c'est vraiment pour se débrouiller. Mais d'un autre côté, au niveau des magasins et choses comme ça, il y avait beaucoup, beaucoup plus de choses ouvertes. C'était... bon, et puis Coca-Cola, il est arrivé, il est dans la rue, hein, des marchands de coca, il y en a partout, c'est... Il y a beaucoup plus de bagnoles, par exemple. En un an et demi, c'est incroyable de voir le nombre de véhicules et des voitures de luxe. Beaucoup de voitures... Enfin, je pense à beaucoup de 4x4 japonais ou des choses comme ça. Et puis, plutôt des grosses bagnoles. Tu vois, d'un côté, tu vois les gens dans la rue qui sont dans la misère. Et puis, tu vois aussi qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent.
Une sorte de bourgeoisie.
Ouais, elle est là, elle est ressortie aussi, quoi. Et... je disais qu'il y avait un délire un peu d'acheter parce que, bon, nous, on a logé chez l'habitant. C'est un genre de bed and breakfast, une nana qui nous a accostés sur le quai de la gare et qui nous a logés pendant... On a passé 3 nuits à Moscou. Mais si tu veux, c'est marrant, dans cette maison où on était, il y avait quand même 4 télés, tu vois. 4 télés pour une famille de 4 personnes. Moi, c'est super, hein. Je veux dire, s'ils veulent 4 télés, je trouve que c'est super. Alors, je me disais, mais pourquoi ils ont ça? Comment ça se passe et tout? Tu te dis des fois, mais peut-être ils achètent des télés parce qu'il y a des télés à vendre. Parce que c'est vrai, un jour, il y a des télés à vendre, mais le lendemain, c'est pas des télés qu'il y a à vendre, c'est autre
ils
chose.
Ils stockent alors, ils stockent.
Ouais, tu le vois un peu comme ça. Tu peux pas... Mais ça, c'était comme en Mongolie. En Mongolie, tu pouvais... C'est marrant, là, c'est vraiment communiste pour ça. Un jour, t'as quelque chose, si tu l'achètes pas l'heure où tu le vois même. T'es pas du tout sûr de le retrouver, quoi. C'est vraiment comme ça, quoi. En Mongolie, si t'arrives à avoir du pain, du beurre et de la confiture, c'est que tu as gazé, hein.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Archives sur Radio Sainte-Afrique. On revient en 2015. On est avec Gilles dans le studio pour vous parler d'une bande qui concerne un voyage en Mongolie il y a longtemps, un voyage en Mongolie en 1992, réalisé par deux bergères sud-avéronaises qui nous ont rapporté ce petit trésor. Merci Gilles d'avoir remis la main dessus.
Petit détail rigolo, Anne a été la première à ramener une yourte. Alors maintenant tout le monde a des yourtes, c'est assez rigolo, mais à l'époque on ne savait même pas ce que c'était, quoi. Et donc c'est la première yourte est revenue de Mongolie grâce à Anne qui a fait plusieurs voyages après par la suite où elle allait chercher de la laine particulière, des choses comme
Et
ça.
Et est-ce qu'elle l'a donné un petit peu à voir dans le sud-avéron? vigneron.
Ah, bien sûr, elle l'a planté sur le plateau du Larzac et ça a été un peu le début, le premier élan vers cet habitat nomade.
Excellent, merci beaucoup Gilles. Et au mois prochain, dans Archive, restez à l'écoute de Radio Saint-Œuf.
Vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'histoire.
Archive.